Voilà, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien, c'est bon? Super. Alors effectivement, aujourd'hui, on va continuer dans notre série des voyages de Paul, et puis on est dans une belle destination de vacances parce qu'on va à Athènes aujourd'hui. Mais je vous préviens tout de suite, on ne va pas parler d'un homme en vacances, mais au contraire, on va parler d'un homme qui est en plein travail, missionnaire pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va lire dans Actes chapitre 17, et les versets 16 à 33. Alors, pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui adoraient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens, engageait aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ?» Et d'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles ?» Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Alors Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. » En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines. Comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants. En particulier, Denis, un membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Alors, aujourd'hui, dans le texte, nous voyons Paul est arrivé à Athènes. Et là, la première chose que le texte nous dit, c'est que Paul, en voyant la ville, il n'est pas émerveillé par la beauté de l'architecture, il est indigné, il bouillait d'indignation. Et je vais vraiment vous demander de garder dans un coin de votre tête cette émotion de Paul et cette réaction face à Athènes, parce que vous verrez plus tard, ça a beaucoup d'importance. Mais Paul, quand il arrive dans cette ville, il est vraiment choqué de voir toutes ces idoles, tous ces temples, tous ces dieux et cette vie des Athéniens. Et Il commence son travail missionnaire un petit peu comme il en a l'habitude. C'est-à-dire que Paul, quand il arrive dans une nouvelle ville, il va tout de suite à la synagogue et puis il commence à discuter avec les Juifs. Le texte nous dit qu'il discute aussi avec les païens convertis au judaïsme. Et puis, il élargit aussi plus loin. Le texte nous dit qu'il va aussi sur les places publiques et puis qu'il commence à parler avec un peu tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire notamment des philosophes. Et pas n'importe quel philosophe, des stoïciens et des épicuriens. Alors, je vous rassure, on va pas faire de philo aujourd'hui, parce que mes cours de philo sont aussi très très loin. Mais quand même, pour bien comprendre la suite du texte, il va falloir quand même qu'on dise deux mots de ces deux courants philosophiques. Alors, les stoïciens d'abord. Alors, les stoïciens, leur particularité, c'est qu'ils étaient très concentrés sur la vertu. Pour eux, la vertu, c'était le secret du bonheur. Mais c'était pas la vertu au sens de plaire à une divinité ou quoi, c'était vraiment de se dire, la vertu, c'est la chose qu'on doit chercher pour être heureux dans la vie. Et leur idée, c'était de se concentrer que sur les choses qu'on peut contrôler, et puis de dire, ben, les choses qui nous arrivent dans la vie, c'est le destin. C'est comme ça. Ça arrive, et puis on doit l'accepter. Peu importe ce qui nous arrive, on doit l'accepter. Et une chose qui sera aussi importante par la suite, ils considéraient que tous les hommes sur la terre font partie d'une même communauté. Les épicuriens. Alors, les épicuriens, eux, ils recherchaient les plaisirs simples de la vie. Les épicuriens, leur idée, c'était, il faut arrêter de se faire du souci, il faut vivre, il faut profiter de la vie, et surtout ne pas s'inquiéter. Et surtout ne pas s'inquiéter de la mort. Épicure, lui, il disait la mort, c'est quelque chose de bien, parce que quand on est mort, enfin, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème. C'est un peu l'état ultime de l'épicurien, c'est quand il est mort. Voilà. Alors, Paul, il est donc en discussion avec ces gens qui ont des visions un petit peu différentes. Et puis, ce que le texte nous montre, c'est que ça ne se passe pas très bien en termes de faire passer le message. Hein, ils discutent avec eux et les réactions c'est « mais qu'est-ce que c'est que cette pie bavarde ?» Et les autres pensent qu'il annonce des divinités étrangères. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que Paul qui annonce le Dieu de la Bible, eux perçoivent ça comme s'il leur annonçait des divinités étrangères. Donc là vraiment il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce dialogue et dans son approche de Paul, c'est un peu l'échec total. Alors, pourquoi est-ce que ça coince comme ça? Pourquoi est-ce que ça, le message ne passe pas? Et le texte nous donne deux pistes. Il dit, Paul, il se concentrait sur annoncer Jésus et la résurrection. Mais pourquoi est-ce que du coup ça cloche à ce point-là? Si on revient à ce que je vous ai expliqué sur les deux courants, bah, finalement, la résurrection, pour un épicurien, c'est un peu bizarre, parce que les épicuriens, je vous l'ai dit, pour eux, la mort, c'est une bonne chose. Une fois qu'on est mort, la souffrance est terminée, voilà. Alors vous dites à un épicurien, en fait, la mort, c'est pas la fin, on peut revenir à la vie et recommencer à se faire du souci, ils sont là, on comprend pas. Pour les stoïciens, c'est pareil. Les stoïciens, ils sont en mode, il y a le destin, c'est le destin, et un jour, on meurt, et puis voilà, c'est la fin. Et donc Paul qui vient et qui leur dit, non, ça peut ne pas être la fin, on peut revenir et recommencer, pareil, ça les dépasse. Et puis, pourquoi est-ce que le fait qu'il annonce Jésus, ça ils n'arrivent pas à le comprendre. Là, je me dis, c'est aussi un peu culturel. Comment ça marche les dieux grecs? Les grecs, ils ont des tonnes et des tonnes de dieux. Avec parfois même, il y a des dieux qui se marient ensemble, qui ont des enfants. Ils ont aussi des dieux qui des fois sont avec des humains. Ça fait des héros qui viennent sur terre et qui accomplissent des choses. Donc finalement, quand Paul vient et leur parle de Dieu le Père et de Jésus son Fils, bah forcément, eux, ils comprennent ça en se disant « Ah bah oui, nous on connaît, on a pareil, il y a Zeus, il a des enfants, etc. » Et du coup, finalement, ils se disent bah, « C'est juste comme chez nous, simplement, c'est des dieux qu'on connaît pas. » Tout ça pour dire que vraiment là, c'est un peu un échec total. Les Athéniens ne comprennent rien. Et puis, ça pourrait s'arrêter là, Paul pourrait dire, bon ben voilà, j'ai essayé, je jette l'éponge, ils comprennent rien, je vais ailleurs. Mais, comme souvent dans le livre des Actes, on voit que vraiment Dieu est à l'œuvre et qu'il dirige les choses et que l'Esprit aussi est à l'œuvre pour guider les voyages de Paul. Et finalement, c'est pas de Paul que ça vient, mais ça vient des philosophes eux-mêmes qui ont une qualité qu'il faut leur reconnaître, c'est que même quand ils comprennent pas, ils ont encore envie de comprendre. Et du coup, ils invitent Paul à venir une fois de plus parler de ce Jésus, de cette résurrection, et ils veulent comprendre, et ils l'invitent à l'aréopage. Alors là, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. L'aréopage, c'est vraiment le lieu central dans la culture grecque où se discute tout ce qui concerne la morale et la religion. C'est un peu comme un conseil d'État, mais qui parle que de morale et de religion. Donc c'est vraiment une occasion unique. On est à Athènes. Athènes, c'est vraiment le centre pour tout ça. Et donc Paul, là, il a une occasion en or d'être devant une foule de gens qui sont spécialisés dans toutes ces questions-là. Et ce qui est intéressant de voir, et on le voit au verset 21, en fait, la raison un peu qui fait qu'ils l'ont invité, c'est parce qu'en fait, ils aimaient parler toute la journée, ils aimaient discuter, échanger des nouvelles, entendre de nouvelles idées, etc. Et c'est ça, finalement, qui va créer cette occasion unique. Alors, Paul se lève et commence son discours. Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un dieu inconnu. Est-ce que vous vous rappelez du verset 16 ? Paul bouillait d'indignation en voyant comment vivaient les Athéniens. Et là, le même Paul commence son discours presque en félicitant les Athéniens pour ce souci qu'ils ont des divinités et de faire des beaux temples, etc. Là, il s'est vraiment passé quelque chose. Le texte ne nous dit pas exactement quoi, mais ce qu'on voit, c'est que dès les premières paroles de ce discours, Paul, il a décidé de changer d'approche radicalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il boue plus d'indignation ou qu'il a accepté, pas du tout. Mais on voit que clairement là, il va essayer de toucher son public et de s'adapter au public en face de qui il est. Et la première chose qui me frappe aussi là-dedans, c'est que ce changement, eh bien, il s'accompagne d'actes. C'est-à-dire que Paul, il a fait l'effort, il s'est baladé dans Athènes, il est allé voir les temples, il est allé voir les divinités, il est allé essayer de comprendre comment ça fonctionnait, au point de même pouvoir ensuite prendre un point très précis de la manière dont adoraient les Grecs et ce fameux dieu inconnu. Et je fais une toute petite parenthèse sur ce dieu inconnu. Les Grecs, leur peur absolue, c'était de fâcher les dieux sans faire exprès, ou d'oublier quelque chose, ou d'oublier un dieu. Et du coup, pour ça, ils se sont dit, ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire un dieu inconnu, comme ça, si un jour il se passe quelque chose, et qu'on a prié tous les dieux du Panthéon et qu'il se passe rien, ben on priera aussi celui-là, et comme ça, on est sûr qu'on aura demandé à un dieu. Donc ça, Paul, il avait pris le temps de vraiment comprendre comment fonctionnait tout ce système. Mais, il dit à la fin du verset 23, « Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Et là, je ne sais pas vous, mais moi je me dis, mais c'est un peu choquant. Est-ce que Paul, il a perdu la tête? Parce que, quand je lis ça, il n'est pas en train juste de dire, « Ah oui, en fait, Dieu, c'est un dieu de plus au Panthéon. » Et est-ce que Paul est devenu fou et se dit, « Bon, en fait, tant qu'à faire... » Voilà, je vais juste leur dire, en fait, moi, mon Dieu, c'est celui qui s'appelle le Dieu inconnu, vous pouvez le rajouter au Panthéon, et puis voilà. Est-ce que Paul est devenu fou? La réponse est non. Je vous rassure. Ce que va faire Paul, là, c'est qu'il a trouvé un angle, il a trouvé une petite porte d'entrée, Et effectivement, il va venir comme ça et amener Dieu au milieu de ce panthéon, mais ensuite, il va tout faire exploser de l'intérieur. Et au verset 24 et 25, et on va les relire, « Une fois qu'il a dit, ce Dieu inconnu que vous révérez, moi je viens vous l'annoncer, il parle de ce Dieu-là. Et qu'est-ce qu'il dit ? Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas non plus besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. » Et là, ça fait vraiment boum, 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 boum. Toutes les colonnes du Panthéon, elles s'écroulent les unes après les autres. Il vient et il dit, « Mon Dieu à moi, il est au-dessus de tout. Il n'a pas besoin de temple. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui est en relation avec les hommes. C'est lui qui décide ce qui se passe sur Terre. » Et puis, ensuite, c'est un peu comme si Paul comprenait que là, d'un coup, il était allé quand même assez fort. Et du coup, dans la suite des versets, il va vraiment faire un travail incroyable pour essayer ensuite de parler à ces gens vraiment d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Et du coup, dans la suite des versets, il va prendre à chaque fois des éléments qui sont vrais et qui parlent de Dieu et qui peuvent parler directement à ces courants philosophiques. Verset 26, « À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur la surface de la terre. » Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur les stoïciens ? Eux, ils pensaient aussi que tous les hommes font partie d'une même communauté. Donc là, les stoïciens sont là, « Ah oui, ça nous parle. Nous aussi, on est d'accord. » Donc non seulement c'est une même communauté, mais Paul dit, en fait, on est tous une même famille. Mais, d'un côté, il leur dit, « Regardez, c'est un peu pareil. » De l'autre, il leur dit, « C'est très différent. » Parce que il a fixé des périodes déterminées et c'est lui qui établit les limites de leur domaine. Et là, c'est très fort parce qu'en fait, vraiment, c'est une manière de dire, c'est pas le destin, c'est pas quelque chose comme ça qui flotte et puis qui est dans la nature et puis le destin s'impose à nous. Là, ce que Paul dit, c'est non. Le Dieu de la Bible, le Dieu que je vous annonce, c'est lui qui est au contrôle et c'est lui qui fixe les limites de la vie humaine. Et au verset 27, il continue. « Par tout cela, Dieu a invité les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. » Et là encore, Paul est vraiment, ce discours est vraiment absolument brillant. Parce que qu'est-ce qu'il fait Paul ici au verset 27 ? Il utilise ce qu'on appelle la révélation primaire. Qu'est-ce que c'est la révélation primaire ? C'est une manière de dire que, en observant la création, en observant l'homme, en observant comment les choses fonctionnent, on peut déjà connaître quelque chose de Dieu. On peut comprendre que Dieu existe. Vous savez, on dit souvent, voilà, si on regarde un coucher de soleil, le fait qu'on soit tellement émerveillé, que ce soit tellement beau, ça dit quelque chose de Dieu. Et donc là, c'est fantastique parce que les philosophes, c'était des chercheurs. Les philosophes, ils passaient leur journée à faire ça. Ils passaient leur journée à réfléchir, à regarder les choses, à se dire « Mais pourquoi c'est comme ça ? Ah mais peut-être que du coup ça veut dire ça. » Et ce que Paul fait là, c'est qu'il leur dit « Mais en fait, le Dieu que je vous annonce, en utilisant votre méthode, vous auriez pu et vous pourriez le découvrir. Parce que ce que vous regardez, c'est lui qui l'a créé. » Et alors là, verset 28, on arrive vraiment au point culminant de la manière dont Paul s'adapte à son public grec. Les deux passages qui sont entre guillemets ici dans cette version, en fait, c'est deux citations de deux poètes grecs. Donc Paul est allé jusqu'à utiliser des extraits de poèmes grecs connus par toutes ces personnes pour expliquer son message. Et il cite deux poèmes. Le deuxième, en fait, c'est un certain Aratos, qui venait d'ailleurs de la même région que Paul, mais qui avait vécu bien avant lui. Et la première citation, c'est d'un poète qui s'appelle Épiménide. Et alors là, je vous dis, hein, comme ce discours, il est juste incroyable de précision. La phrase qu'il cite de ce texte d'Épiménide, c'est un texte où Épiménide reproche aux gens de Crète de penser que Zeus est mort et qu'il a été mis dans un tombeau. Et Épiménide dit « Non, Zeus n'est pas mort, il n'est pas dans un tombeau, il est vivant et il est éternel. » Donc vous voyez un peu jusqu'où il est allé pour essayer de faire comprendre à ces philosophes qui est Dieu et qui est le Dieu de la Bible. Mais jusque-là, on se dit, ok, là c'est bien, il s'est adapté, il a expliqué qui est Dieu, mais il faut quand même, au bout d'un moment, qu'il parle du salut. Il faut qu'il annonce la bonne nouvelle. Alors pour ça, il utilise une technique où il dit, finalement, il y avait plusieurs temps. Il y avait un temps où, finalement, voilà, les hommes ne connaissaient pas forcément Dieu, mais aujourd'hui, ce temps est révolu, et aujourd'hui, ce Dieu annonce à tous les hommes qu'ils doivent changer. Donc, il introduit la notion de « il faut un changement de comportement » parce qu'il y aura un jugement. Donc, il introduit aussi cette notion de jugement. Et il introduit le fait qu'il y a un homme qui a été envoyé et que cet homme est particulier parce qu'il a été ressuscité. Et là, finalement, on voit que le temps de s'adapter et d'essayer de parler à leur manière, il prend fin, et où Paul est là maintenant, je dois quand même dire les choses telles qu'elles sont, même si ça peut vous froisser. Et effectivement, rien que dans ce qu'il dit là, il y a plein de choses qui peuvent froisser ces philosophes. Hein, on se rappelle, l'aspect du changement, du jugement, ça c'est des choses qui vont pas du tout avec ces deux philosophies. On poursuit la vertu parce que ça apporte le bonheur, pas parce que on pense que on va être jugé. Changer parce qu'on a peur d'un jugement. Pour un épicurien qui passe son temps à essayer de ne pas s'inquiéter et de vivre sa vie tranquille, ça plaît pas du tout. Mais Paul est obligé quand même au bout d'un moment de dire les choses telles qu'elles sont et d'annoncer le salut. Son discours prend fin à ce moment-là. Et là, on se dit, tadam, tous les philosophes vont crier « Hurrah, amen, vive le Dieu de la Bible !» Eh ben non. Finalement, on a l'impression qu'on est de retour au début. Il nous a fait un discours absolument magistral. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, les uns se moquèrent de Paul, les autres lui dirent « Nous t'écouterons une autre fois là-dessus. » Alors, finalement, est-ce que tout ça était pour rien? Est-ce qu'en fait, il s'est donné tout ce mal pour rien? Parce que il n'y a pas l'air de se passer grand-chose. Et c'est ainsi que Paul se retire de leur assemblée. Voilà, c'est fini, Paul s'en va. Heureusement. Verset 34. « Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. » Alors vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs moments comme ça où d'un côté on a une précision, puis en même temps on a un immense silence derrière. Parce que Denis et Damaris, j'ai cherché, hein, mais on ne sait rien sur eux. On ne les revoit pas après. On ne nous parle pas d'eux. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas quel rôle ils ont joué dans la suite. Et pourtant, ils sont nommés précisément dans le texte biblique. Alors, il pourrait y avoir plein de raisons pour ça. Je ne prétends pas connaître la raison précise, mais je vous livre mon interprétation. Mais pour moi, le fait que le texte précise le nom de ces quelques personnes qui, quand même, eux, ont été touchés, c'est pour dire que ça valait la peine. Ça valait la peine de se donner tout ce mal. Ça valait la peine d'aller et de faire ce discours. Et même si la grande majorité des philosophes, etc., sont repartis tels qu'ils étaient, se sont moqués, étaient indifférents. En fait, pour Denis, pour Damaris et les quelques autres, ça valait la peine. Et je peux pas dire ça sans faire tout de suite un parallèle, sans tout de suite raccrocher ça aussi à ce que nous vivons. Je pense que c'est la même chose. Que ce soit individuellement ou que ce soit en église, parfois on cherche vraiment, on se donne de la peine pour essayer d'annoncer l'évangile autour de nous. On se donne de la peine pour organiser des choses, des événements, pour essayer d'être compréhensible. Et des fois, ben c'est pareil, la plupart des gens, on a l'impression que voilà, c'est un peu pour rien. On se dit, ah là, c'était une occasion géniale de faire quelque chose, et puis, ben voilà. Mais s'il y a un Denis, s'il y a une Damaris, ça vaut la peine. Et ça vaudra toujours la peine. Et le verset qui me vient, c'est toujours, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Et pour, en guise un peu de conclusion, j'aimerais simplement nous laisser avec des questions. Je crois que des fois, les questions, ça aide plus à avancer que les réponses. Parce que c'est vous qui devez la chercher avec l'aide de Dieu. Et la première question que j'aimerais nous laisser, c'est finalement, quelle est notre attitude par rapport aussi à ces choses qui nous choquent dans la société ? Je pense que vous êtes comme moi, vous voyez des nouvelles modes, des modes de pensée, certains milieux, et je pense que vous êtes pareil, ça vous indigne, vous êtes comme Paul, peut-être ça vous rend fou, vous dites mais c'est pas possible, des gens qui vivent comme ça, des gens qui font ça. Mais quelle est notre attitude face à ça ? Moi j'entends souvent des chrétiens, des églises qui sont révoltés, qui sont en mode mais regardez encore, il y a encore cette nouvelle mode, cette nouvelle manière de faire, c'est tellement contre les valeurs bibliques. Puis des fois, c'est mon interprétation, j'ai l'impression qu'on est plus en mode à essayer de mettre les palissades. On est en train de se protéger. On dit, ouh, faut faire attention, que ça rentre pas dans l'église. Ouh, il faut qu'on se protège pour pas être influencé par ces modes de pensée qui nous paraissent tellement éloignés de Dieu. Alors je pense que c'est vrai qu'il faut faire attention et se protéger. Mais est-ce qu'on serait capable de faire comme Paul et de passer un bout aussi outre cette indignation pour juste essayer de comprendre, essayer de voir, mais en fait, pourquoi ils pensent comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et peut-être ainsi, voilà, pouvoir aussi dire les choses d'une autre manière. Je vous invite vraiment aussi, voilà, à prendre peut-être une chose qui en ce moment, voilà, vous choque profondément, peut-être une personne, comment elle vit, et de vous dire, mais est-ce que je suis capable aussi de me mettre à sa place pour essayer de comprendre ? Pourquoi est-ce qu'elle vit ça ? Pourquoi elle est là-dedans ? Et il n'est pas là aujourd'hui, donc c'est super, il m'en voudra pas de le prendre comme exemple. Mais quand je faisais ça, je pensais par exemple à Jean-Luc Chollet. Vous voyez, Jean-Luc, il a évolué dans la politique. Typiquement, la politique, c'est un milieu qui est très particulier, qui a ses codes. Et dans la politique, vous ne pouvez pas aller annoncer l'évangile de manière brutale. Vous ne pouvez pas aller tous les jours déposer des flyers sur les sièges à l'Assemblée de tout le monde. Ce n'était pas possible. Mais à chaque fois, quand il raconte comment il a fait, comment il a été un témoin, pour moi, c'est vraiment un exemple comme ça. C'est-à-dire qu'il connaissait les codes, il les respectait, mais en même temps, il arrivait par d'autres manières à être un témoignage et il a eu un impact sur le long terme dans les relations qu'il a eues. Et puis, l'autre piste que je vous laisse, et c'est plus aussi un exercice pratique, je prétends pas que c'est la solution, mais on a tous des gens à qui on a parlé de la foi, ou à qui on parle régulièrement de la foi, et où justement on a l'impression qu'il n'y a rien qui passe. On est un peu comme Paul face aux Athéniens, on dit les choses et on a l'impression qu'on parle dans le vide. On dit, et puis les gens sont là, ils nous regardent, ok, mais non. Et je vous invite à penser comme ça, dans les semaines qui viennent, à réfléchir peut-être à une personne avec qui vous avez vécu ça, et de se dire, mais peut-être, qu'est-ce que moi je pourrais faire ? Est-ce que peut-être je ne devrais pas la prochaine fois poser un peu plus de questions ? Est-ce que je ne devrais pas moi essayer aussi de comprendre cette personne ? Oui, peut-être sa manière de vivre ou de penser vous choque ou vous heurte. Mais peut-être vous pouvez faire l'effort comme Paul, simplement d'essayer de comprendre. Moi-même, hein, y a des choses qui me rendent fou. Mais voilà, des fois, de faire juste cet effort de comprendre, après, ça permet dans la discussion d'être aussi moins dans quelque chose, dans l'opposition. Et peut-être aussi Dieu vous inspirera des images ou des manières d'expliquer qui seront plus compréhensibles. Et je précise, je ne suis pas en train de dire qu'il faut diluer le message ou qu'il ne faut pas dire le message en entier. Paul, vous verrez, il n'a pas prononcé le nom de Jésus, Paul, hein, en annonçant le salut. C'est choquant, c'est fou. Mais il a quand même tout dit. Et le message n'était pas dilué. Donc, c'est pas ce que je dis. Mais, il a utilisé des images et des concepts qui pouvaient être compris par son public. Moi, je crois qu'on ne peut pas se cacher derrière l'excuse de dire « Moi, on m'a appris comment on annonce l'évangile, c'est A, B, C, je fais comme ça, si ça ne marche pas, ma foi, c'est Dieu qui dirige, c'est lui qui fait tout, moi, j'ai fait mon job. » Je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière ça, je pense que nous aussi, on doit faire cet effort de rendre ce message audible à nos contemporains. Et pourquoi est-ce qu'on doit le faire ? Parce que pour Denis et pour Damaris, ça en vaut vraiment la peine. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole et pour cet exemple de Paul qui nous montre comme on peut aussi, comme tu l'as inspiré aussi, Seigneur, pour parler à ces Athéniens, Seigneur. Merci pour cet exemple incroyable que nous avons. Seigneur, je te prie vraiment que tu nous aides aussi, comme Paul, à pouvoir discerner comment est-ce que nous pouvons aussi annoncer ton message. Aide-nous, Seigneur, à être courageux, à ne pas avoir peur aussi de comprendre l'autre, d'aimer les autres autour de nous, de faire l'effort de comprendre ce qu'ils vivent et pourquoi ils le vivent, et de venir dans leur réalité, dans leur quotidien, apporter le message de ton salut pour le monde. Seigneur, que tu remplisses nos cœurs, que tu diriges aussi nos esprits et que tu nous aides à être toujours motivés, fervents dans l'annonce de la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.